بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on passe à un chapitre. En fait, on continue ce qu'on faisait à Bruxelles. Donc là, ce que je vais faire là, je serai à Camus et à Bruxelles. Donc celui qui rate les cours de Bruxelles, il les a sur Internet. Et celui qui est à Bruxelles, il rate les cours de Camus, il les a sur Internet. En fait, le but, c'est de le finir en juin, avant que tout s'arrête. Donc il dit ici, c'est « Babu tadrib fi makarim al-akhlaq ». C'est le chapitre de l'encouragement au bon comportement dans Bulugh al-Maram. Donc il y a un livre de hadith, et là c'est l'explication du Cheikh Abdullah al-Bassam. Son explication s'appelle Tawdih al-Ahkam. Donc le premier hadith dit: An ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه. Ce hadith qui est dans les deux sahih dit: je vous recommande la véracité, car la véracité mène au bien ou à la piété. Al-birr, al-birr c'est un mot général, ça veut dire la piété, le bien, la foi. Et la piété mène au paradis. Et l'homme ne cesse de dire la vérité et d'essayer de dire la vérité ou de rechercher à dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme véridique, c'est dire. Et je vous mets en garde contre le mensonge, car le mensonge mène à la désobéissance et la désobéissance mène à l'enfer. Et l'homme ne cesse de dire la vérité, le mensonge, et de chercher à dire le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme menteur. Il dit donc, Cheikh, ma yu'khadhu min al-hadith, ce qu'on retire du hadith. As-sidqu huwa mutabaqatu al-khabari lil-waqi', wal-kadhibu 'adamu mutabaqati al-khabari lil-waqi'. Hadhihi haqiqatuhuma 'inda jumhur al-ulama. Donc as-sidq, la véracité, c'est que une parole qu'on dit soit conforme à la réalité. Et le mensonge, c'est l'inverse, c'est que la parole qu'on dit soit différente de la réalité. Il dit c'est ça leur définition auprès de la majorité des ulama. Al hadith فيه الامر بالصدق لانه يدل ويوصل الى البر الذي هو جماع الخير والبر هو الطريق المستقيم الى الجنه ان الابرار لفي نعيم. Donc le hadith nous ordonne la véracité qui mène à al bir, et al bir ça regroupe tout le bien, et al bir c'est le chemin droit qui mène au paradis, comme Allah a dit al abrar ان الابرار لفي نعيم. Certes les pieux, ça vient du mot al-birr, al-abrar, donc ceux qui pratiquent al-birr, sont dans les bienfaits, sont au paradis. Inna sidqa khuluqun karimun yahsulu bil iktisabi wat tahsili wal mujahada. Fa inna ar-rajula ma yazalu yasduqu fi aqwalihi wa af'alihi wa yataharra as-sidqa fihima hatta yakuna as-sidqu khuluqan lahu muta'assilan fi nafsihi wa sijiyatan min tab'ihi. Fa yakunu 'inda Allah ta'ala min as-siddiqin wal abrar. Dit la véracité, c'est un noble comportement qui s'acquiert avec l'exercice et le fait de se combattre soi-même. L'iktiseb, c'est-à-dire on peut acquérir, la personne qui n'a pas le comportement de la véracité, il peut l'acquérir en faisant des efforts sur lui-même. Et la personne ne cesse de dire la vérité, ou alors yasduku. Yasduku, c'est pas seulement par la parole, c'est-à-dire il est véridique dans ses paroles et dans ses actes. Et il essaye d'être véridique jusqu'à ce que la véracité devienne un comportement naturel chez lui. Et alors il sera écrit auprès d'Allah comme un siddiq, c'est-à-dire comme un véridique et comme un pieux aussi. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالصدق خلق كريم يتضمن الصدق في القول والنية والإرادة. Ici c'est un verset qui dit: parmi les croyants il est des hommes qui ont été véridiques dans leurs promesses ou dans leur pacte envers Allah. Donc, sadaqu ma ahadullah alayhi, c'est-à-dire ils ont été véridiques dans leur pacte avec Allah. Il dit donc, la véracité c'est un noble comportement qui englobe la véracité dans les paroles, dans l'intention et dans la volonté. Faman ittasafa bisidq fi jami'i dhalika fa huwa siddiq. Celui qui a cette caractéristique dans tout ça, c'est-à-dire ses paroles, sa niya et ses actes, c'est un siddiq, c'est un vrai véridique. لأنه صيغة مبالغة من الصدق وبقدر ما يتمكن من هذه المقامات فهو صادق بالنسبة إليه والله أعلم. أما الكذب فهو خلق ذميم يكتسبه صاحبه من طول ممارسته وتخلقه به وتحريه قولا وفعلا. Là il dit la même chose pour le mensonge, c'est-à-dire que, à l'inverse, le mensonge, c'est un comportement blâmable et qui s'adopte à force de s'y habituer, à force de le faire dans ses actes et dans ses paroles, ben, ça devient un comportement naturel chez la personne.
ويدل الحديث على التحذير من الكذب لأن الكذب يوصل إلى الفسق والفجور فتصير أعماله وأقواله كلها على خلاف الحقيقة خارجة عن طاعة الله تعالى والخروج عن طاعته هو الهاوية التي تقود صاحبها وتزج به في نار جهنم.
Et donc ce hadith, il finit avec ça, met en garde contre le mensonge qui mène à la perversité, à la désobéissance. Et il fait que tous tes actes et toutes tes paroles soient contraires à la vérité et soient externes à l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire contraires à l'obéissance d'Allah. Or le fait de sortir de l'obéissance d'Allah, c'est ça qui te mène à ta perte et qui te mène en enfer. Ici on peut rajouter une faïda. Quand Allah il a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl. Et Ibrahim, donc vous connaissez l'histoire, il a vu ça en rêve. Quand il l'a dit à son fils Ismaïl, il lui a dit Ya abati fa'al ma tu'mar. Et ô mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Car le rêve des prophètes, c'est une révélation.
فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
Allah dit, et lorsqu'il l'eut pris et qu'il l'eut allongé sur le côté, c'est-à-dire il allait égorger son fils,
وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
Allah dit, nous l'avons appelé, nous lui avons dit, ô Ibrahim, صدقت, donc ça vient du mot sitq, ça veut dire rendre véridique quelque chose, la vision, c'est-à-dire tu as cru en la vision. Et à quel moment Allah lui a dit tu as cru à la vision? Quand il a fait ce que la vision demande de faire, pas juste quand il a décidé. C'est-à-dire que as-sidq et at-tasdiq, il est aussi dans les actes, c'est-à-dire le fait de croire au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas juste d'y croire mais c'est aussi d'appliquer, parce que quand il a pris son fils pour appliquer ce qu'il a vu, Allah lui a dit tu as cru, entre guillemets tu as cru, ou tu as déclaré véridique la vision, saddaqta. Donc tasdiq et as-sidq, le fait de croire, et la véracité c'est aussi en appliquant et c'est dans les actes.
Wa an Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith muttafaqun alayh.
Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit méfiez-vous des soupçons ou de la présomption, car c'est le parler le plus mensonger. Ça, c'est dans les deux sahih.
Donc, il dit Al-Hadith fihi al-tahdhir min al-dhann, wal-muhadhdhar minhu huwa ma kana bil-muslim alladhi zahiruhu al-adala, fa inna hadha la yajuzu fihi dhannu su', wa inna ma yuhmalu ala zahirihi, fa-dhannu fihi kadhibun mukhalifun il-waqi'.
Il dit ce hadith nous met en garde contre al-dhann. Al-dhann, c'est les soupçons, le fait de penser du mal de quelqu'un. Mais ce qui est voulu ici, c'est le fait de penser du mal d'un musulman qui en apparence est quelqu'un de bien. Donc il est interdit de penser du mal de lui comme ça sans raison. Mais au contraire, on doit penser de lui selon son apparence. Si c'est quelqu'un de bien, on pense du bien de lui. Parce que le fait de penser du mal serait contraire à la réalité et à ce qu'il nous laisse apparaître.
أما الظن بأصحاب الريب والفسق فليس في هذا التحذير فأعمالهم شهدت عليهم بسوء السلوك وعدم الاستقامة.
Il dit quant aux gens des péchés et de la désobéissance, alors cela, il nous est pas interdit de penser du mal d'eux, parce que eux-mêmes, leurs actes témoignent de leur mauvais comportement et du fait qu'ils ne sont pas droits. Donc c'est pas qu'on pense du mal d'eux, c'est que déjà eux-mêmes ils l'ont extériorisé. Donc eux, on peut penser du mal d'eux, puisque c'est déjà ce qui apparaît dans leurs actes. Et il dit on a déjà parlé de ce hadith précédemment.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر متفق عليه. Ce hadith, il est dans les deux sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous mets en garde contre le fait de vous asseoir sur les chemins. Et ils ont dit au messager d'Allah: on est obligé de s'asseoir, c'est-à-dire ces assises qu'on fait d'habitude, on est obligé de les avoir pour qu'on discute. Et il a dit: si vous refusez, c'est-à-dire vous refusez d'appliquer ça, alors donnez au chemin son droit. Et ils ont dit: quel est son droit? Quel est le droit du chemin? Il a dit: c'est le fait de baisser le regard, de ne pas nuire, kaful ada, c'est-à-dire de, entre guillemets, retenir ta nuisance, donc de ne pas nuire. Waraddu salam, et de rendre le salut, et d'ordonner le bien, et d'interdire le blâmable. Donc il dit: ma yu'khadhu min al-hadith. Al-hadith yadullu ala al-nahi an al-julus fi al-turuqat wa mamarrat al-nas. Donc ce hadith nous interdit de nous asseoir dans les chemins et dans les passages des gens. لما في ذلك من تتبع أحوال المارين وإلى النظر إلى النساء المرات أمام الرجال. Parce que ça implique le fait de se mêler des affaires de ceux qui passent et de regarder les femmes qui passent devant les hommes. فينبغي أن يكون في البيوت أو في المقاهي أو الحدائق العامة الخالية من اختلاط الرجال بالنساء. Il dit donc les assises entre les gens et les discussions doivent se faire dans les maisons ou dans les cafés. Bon, bien sûr, la Cheikh, lui, il parle des cafés tels qu'il connaît, donc dans son pays et à son époque, parce que Cheikh, il est mort il y a plusieurs années, et c'est donc des cafés où il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de musique, tu t'assois et tu bois un café, c'est tout, et il n'y a pas non plus d'alcool, hein. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de musique. Ou alors les parcs publics, où il n'y a pas de mélange entre hommes et femmes. إذا لم يكن بد من الجلوس في الطرقات والشوارع فعلى الجالسين أن يؤتوا الطريق حقه من الأمر بالمعروف وإذا رأوا منكرا أمامهم فعليهم إنكاره وغض البصر عن النساء اللاتي يمررن أمامهم وأن يغفلوا عن الذين يمرون أمامهم من الرجال الذاهبين الآيبين في أغراضهم وحاجاتهم التي ربما كرهوا أحدا أن يراهم عليها. Il dit: si les gens ils sont forcés à s'asseoir dans les chemins et dans les rues, alors ils doivent respecter le droit du chemin. Ils doivent recommander le bien aux gens. Quand ils voient un mal devant eux, ils doivent le blâmer. Ils doivent baisser les yeux vis-à-vis des femmes qui passent devant eux. Et ils doivent ne pas faire attention aux hommes qui font leurs allées et leurs retours devant eux. C'est-à-dire qui vont et qui passent devant eux. Ils ne doivent pas parler de leur honneur ou de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que peut-être que ces gens-là, ils détestent. Ils sont en train de faire quelque chose, une action dans laquelle ils ne veulent pas qu'on les voit ou qu'on les regarde. كما يجب عليهم رد السلام وإجابته على من ألقاه عليهم من المرين. Comme il leur est obligatoire de rendre le salut à celui qui passe et qui leur donne le salut. لأن الابتداء بالسلام سنة من المر على القاعد أما رده فهو فريضة على من ألقي عليه. Car le fait que celui qui passe donne le salam à celui qui est stable, assis ou, c'est-à-dire qui n'est pas en train de marcher, c'est ça la sunna, c'est lui qui doit passer le salam en premier. Mais quant au fait de rendre le salam, ça c'est une farida, c'est-à-dire c'est une obligation pour quelques personnes qui reçoivent le salam. Là, Cheikh, ce dont il parle ici, c'est valable pour la mosquée. Quand on sort de la mosquée, on est dans une rue, donc c'est-à-dire il faut, si on doit parler à quelqu'un devant la mosquée, c'est exactement la même chose, ça reste la rue et ça reste le chemin des gens, donc il faut respecter ces règles-là. قال القاضي عياض فيه دليل على أن النهي عن الجلوس في الطريق ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه لأنهم لو فهموا أنه للتحريم لم يراجعوه. القاضي عياض رحمه الله dit: dans ce hadith il y a une preuve que le fait de s'asseoir dans les chemins c'est interdit mais pas haram, c'est-à-dire c'est makruh, c'est seulement déconseillé. Parce que si les sahaba avaient compris que c'était haram, jamais ils auraient dit au prophète: ouais, mais on est obligé de le faire. Si c'était haram, il se sera abstenu tout simplement. Ça prouve que c'est simplement déconseillé. Donc si on comprend bien, c'est déconseillé, et si on doit forcément le faire, alors on doit respecter les droits du chemin. C'est-à-dire qu'à la base, le mieux c'est carrément de ne pas le faire. وأيضا كانت مراجعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لضيق منازلهم التي فيها النساء. فإذا اجتمع الرجال تركوا البيوت لضيقها وجلسوا في الطريق والله أعلم كما ذكر هذا ابن أبي جمرة. Il dit aussi pourquoi ils ont dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils ont répondu mais on est obligé? C'est parce que leurs maisons à l'époque elles étaient étroites. Et donc il y a les femmes chez eux. Donc pour s'asseoir, ils étaient obligés de s'asseoir dehors pour pas gêner les femmes qui sont à la maison. Il dit un certain, donc je ne connais pas, Ibn Abi Jumra ou Jamra a mentionné ça. المطلوب من الجلوس في الطريق أمور كثيرة منها إرشاد ابن السبيل إغاثة الملهوف إعانة المظلوم والإعانة على الحمل. Il dit ce qui est voulu quand on s'assoit dehors, ces différentes choses qui sont le fait d'orienter quelqu'un qui passe ou un voyageur, le fait de prêter une aide à celui qui est en détresse et qui a besoin d'aide, le fait d'aider quelqu'un qui est opprimé, c'est-à-dire qui subit une agression, et le fait d'aider quelqu'un à porter ce qu'il doit porter, c'est-à-dire des bagages ou des commissions. ومن الحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات خشية الفتنة وفيه التعرض للزوم حقوق الله وحقوق المسلمين ولو كان قاعدا في منزله كما تعرض للفتنة ولما لزمته الحقوق التي قد لا يقوم بها. Il dit dans la sagesse qu'il y a dans cette interdiction de s'asseoir dans les chemins, c'est la peur de la fitna, c'est-à-dire la tentation et les troubles. Et parce que tu t'exposes à des droits d'Allah et à des droits de ces créatures que peut-être tu ne vas pas remplir. Contrairement à si tu étais assis chez toi. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. Ici, le hadith rapporté par Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. » Yufaqihuhu, ça vient du verbe « faquha » ou « faqiha ». « Faquha » ça veut dire « ou « faqiha » plutôt, ça veut dire « fahima », ça veut dire « comprendre ».« Faquha » ça veut dire « sara faqihan », ça veut dire « il est devenu quelqu'un qui comprend ». Donc « yufaqihuhu », c'est-à-dire « il lui fait comprendre la religion ». Donc il dit « هذا الحديث دليل على عظمة الفقه في الدين الذي يشمل أصول الإيمان وشرائع الإسلام وحقائق الإحسان ومعرفة الحلال والحرام فإن الدين يشمل هذه الأمور الهمة العظام كلها فإن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القواعد وأجابه عنها قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه البخاري ومسلم. Il dit ce hadith montre la grandeur du fiqh dans la religion. C'est-à-dire, le fiqh, ça exprime à la fois la compréhension et le savoir. Il dit, et ça englobe les bases de la foi et les législations, c'est-à-dire les lois de l'islam et les réalités de l'ihsan. L'ihsan qui est la bienfaisance envers les créatures d'Allah ou l'excellence dans l'adoration d'Allah. Et le fait de connaître le licite et l'illicite. Il dit, car la religion englobe toutes ces affaires ou tous ces ordres, ces grands ordres. Et Jibril, lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses règles et sur ses bases de l'islam, à la fin le prophète a dit voilà Jibril qui est venu vous apprendre votre religion, quand il a demandé à propos de l'iman, l'islam et l'ihsan. أما تسمية الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال فإن هذا إنما هو اصطلاح خاص حادث لعلماء الأصول الفقهية. Il dit quant au fait d'appeler le fiqh pour désigner cette science qui est la connaissance des statuts religieux, al-ahkam, c'est-à-dire halal, haram, makruh, wajib, etc. à partir de leurs preuves, c'est-à-dire à partir des textes religieux. Donc c'est ça la science du fiqh. La science du fiqh, c'est la science qu'on appelle fiqh. Qui porte le nom de fiqh, c'est ça, c'est connaître les ahkam, les statuts des choses et des actes et des adorations ou des rapports sociaux à partir des preuves religieuses. Il dit ça, c'est un lexique spécifique aux savants du fiqh et c'est un lexique nouveau. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre le fiqh tel que vous le lisez dans les hadiths, qui veut dire la compréhension ou le savoir, et le fiqh qui, par la suite, est devenu un mot propre à la science du fiqh. Donc vous comprenez, il ne faut pas appliquer les lexiques, l'istilahat al-haditha, c'est-à-dire les lexiques nouveaux, les appliquer sur les textes religieux. C'est comme le mot sunnah par exemple. Le mot sunnah par la suite il a été employé pour désigner al-mustahab. Mais ça c'était par la suite. Donc il ne faut pas que quand tu lis le mot sunna dans un hadith, tu le comprends par mustahab. Il faut le comprendre comme il était compris au moment où le prophète parle, sallallahu alayhi wa sallam. Pas selon la définition qu'on a donnée au mot des années après. Sans qu'on dise que cette appellation elle soit haram, parce que c'est juste un lexique sur lequel ils se sont mis d'accord, ou alors auquel ils se sont habitués.
فَيَدْخُلُ فِي مَدْلُولِهِ الشَّرْعِ عَلَى الْمَعْنَى الْعَامِ مَعْرِفَةُ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَمَعْرِفَةُ السَّيْرِ وَالسُّلُوكِ إِلَى اللَّهِ بِمَعْرِفَةِ مَرَاتِبِ الْإِحْسَانِ فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ وَوَفَّقَهُ لِلْعَمَلِ بِهَا.
On dit donc rentre dans la signification religieuse du mot fiqh, c'est-à-dire sa signification globale, la connaissance des réalités de l'iman, c'est-à-dire de la foi, la connaissance des statuts des règles de l'islam, et la connaissance de as-sayr wa as-suluk, c'est-à-dire le fait entre guillemets de cheminer vers Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la spiritualité, en connaissant les degrés de al-ihsan. Donc celui à qui Allah veut du bien, il lui fait, il lui donne le savoir dans toutes ces choses, pas seulement dans l'ahkam. Et il lui facilite le fait d'agir et d'appliquer ces choses-là.
دل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن الفقه في الدين والتحلي بعلومه التي هي أشرف العلوم أن الله تعالى لم يرد به خيرا.
المفهوم c'est-à-dire المفهوم المنطوق c'est ce que dit le hadith. المفهوم c'est ce qu'on comprend du hadith. Ils disent ce qu'on comprend du hadith c'est que celui qui se détourne du savoir et de la compréhension de la religion et de s'embellir par les sciences de la religion qui sont les sciences les plus nobles, c'est qu'Allah ne lui a pas voulu du bien. C'est-à-dire, le hadith lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre et il lui donne le savoir dans la religion. Donc on en comprend, celui qui n'a pas le savoir et qui n'a pas la compréhension, c'est qu'Allah ne lui voulait pas du bien. C'est ça le mafhoum, c'est ce qu'on comprend.
وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْمَعْنَ مَنْتُوقًا فِي رِوَايَةِ أَبِي يَعْلَى
وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَمَنْ لَمْ يُفَقِّهُ لَمْ يَبَالِ اللَّهُ بِهِ. Et cette compréhension du hadith, elle est venue texto, donc au mantouq, dans un autre hadith qui est rapporté dans le Mousnad d'Abi Ya'la, qui dit, et celui à qui Allah ne fait pas comprendre, ou ne donne pas le savoir dans la religion, c'est qu'Allah c'est qu'il n'apporte pas à Allah. C'est que Allah le délaisse, entre guillemets.
العلوم الشرعية من الأعمال النافعة المتعدي نفعها من حاملها إلى غيره تعليما وتأليفا أو قضاء أو إفتاء فهي من الأعمال الباقية بعد وفاة صاحبها كما قال أو علم ينتفع به بعده رواه مسلم وقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
Et les sciences religieuses font partie des actions dont le bien dépasse la personne qui agit. C'est-à-dire le bien, c'est un bien qui concerne la personne et aussi autrui. Contrairement à, par exemple, quel exemple on pourrait prendre qui n'est pas de la sorte. Par exemple, la salat ou le jeûne, c'est un bien pour toi. Mais dit les sciences religieuses, c'est un bien qui dépasse la personne qui fait les actes. Et dit comme l'enseignement ou le fait d'écrire ou al-qada. Al-qada, c'est le fait de juger, d'être juge. Ou al-ifta, c'est-à-dire le fait de faire les fatwas. Et dit ça fait partie des actes qui vont rester. C'est-à-dire l'amal baqiyat, dont la récompense va rester pour la personne, même après sa mort. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sur les choses qui profitent aux morts, même après, c'est-à-dire la personne même après qu'elle soit morte, une science qui profite aux gens après lui. C'est-à-dire si les gens profitent de sa science, comme par exemple ici on lit le livre de Shir qui est décédé, rahimahullah, ça lui profite encore à chaque fois que quelqu'un profite de sa science. Et Allah dit, il donne la sagesse à qui il veut, et celui qui a reçu la sagesse a reçu un bien énorme, mais seuls les gens intelligents se rappellent.
للتفقه في الدين طرق وأسباب من أخذ بها نجح وحصل له الفقه التام في دين الله.
Il dit le fait d'apprendre la religion, l'apprentissage, à différents chemins et différentes causes. Celui qui les emprunte réussira, et il aura le savoir complet dans la religion d'Allah.
فَمِنْهَا تَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِخْلَاصُ فِي الطَّلَبِ فَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ.
Parmi ces causes, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc ils disent même que c'est la plus grande cause pour que la personne, quand elle étudie, Allah lui facilite le savoir, c'est at-taqwa. وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ سَلَامَ رَحْمَةُ اللَّهِ. Et craignez Allah et Allah vous enseignera. Donc la plus grande cause, c'est que la personne, elle soit pieuse. Comme vous connaissez l'histoire, ça, il le répète beaucoup dans les conférences, tout ça, l'histoire où Shafi'i, il dit il avait vu une femme, il avait vu un tibia d'une femme quand elle marchait, alors il, après il a remarqué qu'il n'arrivait plus à mémoriser. Et quand il l'a dit à son shir, et après il raconte l'histoire, il dit, si j'arrive à le répéter, Shakautu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala inna ilma Allahi nurun wa nurullahi la yu'tahu asi. C'est-à-dire, je me suis plaint à Waki'a, son shir, de la faiblesse de ma mémoire, et il m'a orienté vers le fait de délaisser les péchés. Et il m'a dit, la science est une lumière, et la lumière d'Allah n'est pas donnée à un pécheur. Donc ça fait partie des grandes causes, at-taqwa. Et la sincérité dans la demande, c'est-à-dire que dans sa demande de science, il ne cherche que la face d'Allah et la demeure future.
ومنها سلوك الطرق المستقيمة في التحصيل فيعنى أول طلبه بالمختصرات لتلك العلوم وأصولها حفظا وفهما.
Et aussi, la deuxième cause, ça ce sont les causes abstraites entre guillemets, et puis après il y a les causes concrètes qui sont les chemins à emprunter et les bons chemins à emprunter pour acquérir la science. Donc au début de sa demande de science, l'étudiant il doit se concentrer sur les résumés, c'est-à-dire les petits livres, et qu'il va apprendre par cœur et qu'il va comprendre. C'est-à-dire, ça c'est toujours la voie des savants, c'est qu'ils te disent par exemple, tu commences dans la Aqida, tu fais Al-Usul al-Thalatha. C'est-à-dire, c'est pas les livres d'Ibn Taymiyyah, c'est Al-Usul al-Thalatha, c'est simple, c'est petit, tu l'apprends par cœur et tu le comprends avec un shir. Après, par exemple, tu fais Al-Qawa'id al-Arba', les quatre règles, c'est encore plus petit que Al-Usul al-Thalatha de Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Après tu fais Kitab al-Tawhid, tout ça en l'apprenant à chaque fois par cœur. Et à chaque étape tu apprends par cœur. Et dans le fiqh aussi il y a des façons, et dans le hadith, et dans les sciences du hadith, et dans usul al-fiqh, à chaque fois il y a des petits, ils appellent ça les mutun. Au singulier c'est un matn. C'est-à-dire un petit livre que tu peux facilement apprendre par cœur, des fois c'est sous forme de poème, qui contient de la science. Donc il faut l'apprendre par cœur et le comprendre, et après tu passes à l'étape suivante. Si on regarde la plupart des ulamas contemporains, et même les ulamas de l'islam en général, ils sont tous passés par cette voie-là. Et le Cheikh Abdallah al-Bassam, il sait de quoi il parle, puisqu'il est de l'école saoudienne. Et en Arabie Saoudite, c'est comme ça qu'ils font. Ils apprennent vraiment petit à petit dans chaque science, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme Cheikh Abdallah al-Bassam.
ثم يتوسع فيها شيئا فشيئا ولا يزج نفس بنفسه بالمراجع الكبار في أول الطلب فيتشتت ذهنه ويضيع جهده في أسفار العلم والكتب الكبيرة فيخرج بلا فائدة.
Il dit ensuite, il prend quelque chose de plus grand, petit à petit. C'est-à-dire, petit à petit, il fait, par exemple, dans le hadith, ils disent, tu commences, tu apprends les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc 40 hadiths qui concernent à peu près toute la religion. Après, tu apprends Undatul Ahkam. C'est à peu près 350 ou 400 hadiths qui sont tous dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Et c'est des hadiths que sur le fiqh. Après, tu passes à Bulugh al-Maram. Là, il y a 1300 hadiths. Donc sur le fiqh et aussi sur le comportement. Après, à côté, tu peux faire après ou avant Riyad al-Salihin, qui lui est que sur le comportement et la spiritualité avec un peu de licite et l'illicite. Et après avoir fait ça, il y a encore une autre étape, et ça s'appelle Al-Muntaqa, du grand-père de Ibn Taymiyyah, Al-Majd Ibn Taymiyyah. Donc c'était le grand-père de Ibn Taymiyyah, lui-même il s'appelait Ibn Taymiyyah parce que c'était leur nom, qui a fait un livre, là il y a 4000 hadiths à peu près. Et après seulement la personne elle étudie Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Mais quand elle sera passée par toutes ces étapes, ça sera facile pour elle d'étudier Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, etc. Et dans le fiqh aussi, dans la aqida, et à chaque fois il y a des étapes. Il dit donc qu'il ne doit pas rentrer dès le début dans les grands livres, au début de sa recherche de science, parce que son esprit va se disperser. Et ses efforts, ils vont être vains. Ils vont se disperser dans les grands livres. Et il va sortir sans aucune faïda.
وعن أبي الدرداء.
Et combien on voit des frères, des étudiants, quand ils commencent à étudier, Ils entendent les shoyokh dire donc les conseils habituels, comme quoi il faut commencer par les petits livres, etc. Eux, ils disent, moi, c'est pas la peine, j'ai déjà compris beaucoup de choses. Mais 5 ou 6 ans ou 7 ans après, tu le revois, et il n'a pas progressé énormément. Parce qu'il croyait qu'il était capable de rentrer dans les grands livres, et des fois, il peut être capable. Ça veut dire, c'est vrai que des fois, il ouvre, il comprend. Mais le problème, c'est pas seulement de comprendre. Le problème, c'est que ça demande trop d'efforts. Et donc, tes efforts, ils vont se disperser, et à la fin, tu vas ressortir avec rien. Parce que t'as pas appris par cœur, t'as pas été étape par étape. Alors que celui qui va étape par étape, c'est vrai que c'est dur. Parce que des fois, il y a des trucs que, pour toi, ça te paraît évident, mais t'es obligé de les apprendre par cœur. Mais c'est une étape. Et c'est comme ça que tous les savants, ils ont fait de toute façon. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. Ici le hadith nous dit, qui est dans les sunan, il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance que le bon comportement. Ça s'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Ici le Cheikh dit que le hadith il est hasan. Notamment il a été authentifié par As-Suyuti et Al-Iraqi. Donc il dit حسن الخلق هو الصورة الباطنة للإنسان فالإنسان في حقيقته مركب من جسد ونفس فالجسد مدرك بالبصر والنفس مدركة بالبصيرة ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما جميلة وإما قبيحة. Il dit le bon comportement, c'est l'aspect intérieur de la personne. Il dit car la personne, elle est composée d'une âme et d'un corps. Donc le corps, on peut le voir avec l'œil. Et l'âme, donc là c'est plutôt فالجسد مدرك بالبصر. Le corps voit par l'œil et l'âme voit par البصيرة, entre guillemets, l'œil du cœur. Et chacun des deux a une forme, soit elle est belle, soit elle est laide. فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. Donc il dit le comportement, c'est une expression pour désigner donc là la situation entre guillemets ou la position de l'âme, la position qui est ancrée dans l'âme et dont va sortir les actes par facilité et sans effort. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire ici, le comportement, c'est la qualité de l'âme, c'est pas une qualité physique, c'est la qualité de l'âme et les actes ne dépendent que du comportement. فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا وإن كانت قبيحة سميت خلقا سيئا وليس الخلق عبارة عن الفعل فرب شخص طبعه السخاء يبذله بلا رجاء نفعه. Il dit aussi, donc si les actes sont beaux, on va les appeler ces actes le bon comportement. Et si les actes sont laids, on va les appeler le mauvais comportement. Il dit l'acte en lui-même, al-khuluq, le comportement, c'est pas un mot qu'on applique à l'acte en lui-même. Donc là, j'ai la dernière phrase, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. On passe tout de suite à la deuxième. Il dit al-khuluq al-hasan ibaratun 'an al-af'al al-jamila wa at-tasarrufat al-mustajmila as-sadira min nafs tayyibah lam yahmil 'ala sudurha talab al-mukafa'a wa lam takun bida'i ar-riya' was-sum'ah wa la min ajli gharadin min al-aghrad dunyawiyyah wa innama hiya faydun min an-nafs as-safiyah sarat athqal shay'in fi mizan sahibiha yawm al-qiyamah. Et dit le bon comportement, donc c'est une expression pour désigner les belles actes et une belle façon d'agir qui vient de la personne parce qu'elle a qui vient de la bonté d'âme, c'est-à-dire elle vient d'une bonne âme, et des actes qui ne sont pas faits pour avoir un retour de la personne en qui tu fais du bien, envers qui tu fais du bien, ni par ostentation, ni pour la réputation, ni pour avoir un but d'ici-bas. C'est-à-dire ça rentre pas dans le bon comportement si c'est fait pour ces intentions-là, mais simplement c'est quelque chose qui vient d'une âme pure. Et c'est pour ça que c'est la chose la plus lourde dans, dans la balance au jour du jugement. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا فعل الخير بداع من خلق لم يكتسبه وإنما فطره الله تعالى عليه أن له على ذلك أجرا فلو لم يعلم أنه من أهل هذا الخلق الكريم وأنه جدير به لما جبل عليه. Il dit ce hadith, il prouve que Si une personne elle fait du bien par un comportement qu'elle n'a pas acquis, mais un comportement, Allah il l'a mis naturellement en elle, eh bien il est quand même récompensé pour ce comportement. Même si lui il ne se rend même pas compte qu'il est doté d'un bon comportement. Parce que le bon comportement ou le mauvais comportement, comme ils disent les savants, soit tu es fondé dessus, c'est-à-dire tu es naturellement créé dessus, pas sur tout le comportement, mais sur certains bons comportements et certains mauvais comportements. Donc tu vas trouver une personne naturellement, sans se forcer, elle est généreuse, elle est patiente, mais peut-être elle est par exemple, je sais pas moi, une autre, elle est envieuse ou quelque chose comme ça, elle a d'autres défauts. Donc elle doit à la fois préserver ses bons comportements et chasser ses mauvais comportements. Et les bons comportements qu'elle n'a pas, eh ben elle doit essayer de les acquérir. Et les mauvais comportements qu'elle n'a pas, elle doit faire attention à ne pas les acquérir. Et qu'ils ne deviennent pas une habitude. Parce qu'une personne, elle peut avoir des mauvais comportements, et après elle s'habitue à d'autres comportements encore qui lui deviennent une nature, alors qu'à la base, c'était pas chez elle. Et pareil, tu peux trouver une personne qui a des bons comportements, et elle n'en a pas d'autres qualités, mais avec l'exercice et l'habitude, elle les acquiert. Donc le comportement, c'est soit naturel, soit par l'acquisition. Mais les deux, ils comportent une récompense. Comme les deux, si c'est un mauvais comportement, ils comportent aussi un blâme et un châtiment. On va s'arrêter là, Inch'Allah, ça fait combien ? 36 minutes. Parce que ça devient un peu... Avec ma bouche, là, ça devient fatigant. Donc on va s'arrêter là, et puis on fera cours ce week-end à Rennes. C'est-à-dire, on sera pas, je n'irai pas à Bruxelles ce week-end. J'irai à Rennes, Inch'Allah. Sinon, jeudi avec Kamel. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب